l'écho du terrain.
Bonjour à tous. Pour ce nouveau podcast sur Radio Alzheimer, nous allons parler d'une étude consacrée au cerveau des chauffeurs de taxi de Londres. Il faut savoir que ces chauffeurs doivent réussir un examen préalable leur permettant de se retrouver dans les 26 000 rues de Londres, une sorte de GPS mental. Le cerveau de 30 chauffeurs fait l'objet d'une étude sur la maladie d'Alzheimer menée par le neurologue Hugo Spears et trois doctorants de l'University College London. Emmanuel Cognat est avec nous par téléphone. Pour en parler, il est neurologue et maître de conférences praticien hospitalier au Centre de Neurologie Cognitive, qui est le CM2R Nord-Île-de-France situé à l'hôpital Lariboisière à Paris. Emmanuel, vous êtes également membre du conseil scientifique de l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Alors, j'ai lu attentivement l'article du Washington Post au sujet de cette étude. L'article dit que la région de l'hippocampe, des cerveaux des chauffeurs de taxi, une région qui joue un très grand rôle dans la mémoire et l'apprentissage, eh bien cette région semble plus volumineuse et l'est d'autant plus quand les chauffeurs travaillent plus longtemps, alors que cette région du cerveau, de celle de l'hippocampe donc, se réduit chez les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Alors Emmanuel Cognat, première question tout d'abord, est-ce qu'il est bien exact que la région hippocampique se réduit donc chez les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée ?
Alors, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à répondre à ces questions sur cette étude intéressante et prometteuse. Oui, effectivement, l'hippocampe, c'est une région très particulière du cerveau qui a fait l'objet de beaucoup d'intérêt parce que on a découvert grâce à un patient, le fameux HM dont on a entendu parler, y compris dans les grands journaux quand il est décédé, un monsieur qui avait subi une opération pour une chirurgie de l'épilepsie et on lui avait enlevé ses deux hippocampes et ce monsieur n'a plus jamais pu former de souvenirs, ce qu'on appelle de souvenirs épisodiques. Et à partir de là, on s'est rendu compte que l'hippocampe était une structure clé de la mémoire et de là, on s'y est intéressé forcément dans la maladie d'Alzheimer et on a observé effectivement que en moyenne, les patients qui ont la maladie d'Alzheimer ont des hippocampes plus petits, c'est-à-dire ce que l'on appelle plus atrophiques dans notre jargon médical. Et que cette atrophie, bien sûr, progresse avec l'évolution de la maladie.
Et merci pour ce préambule déjà. Mais du coup, en quoi est-ce utile d'étudier le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens, d'après vous ?
Oui, cette étude fait suite à plusieurs études qui ont été réalisées sur cette population très particulière. La première ayant été publiée dans les années 2000, celle qui a montré que l'hippocampe des chauffeurs dans une certaine région grossissait avec la pratique. Cette étude a révélé, c'est un des meilleurs exemples de la plasticité cérébrale et de la plasticité qui peut s'opérer dans cette région clé pour la mémoire qui est l'hippocampe. Qu'est-ce que c'est que la plasticité ? C'est la capacité qu'a le cerveau à se modifier, et en pratique pour ce qui nous intéresse, à se développer lorsqu'on va utiliser certaines fonctions, et donc c'est les fonctions étant sous-tendues par des régions. On sait que dans l'hippocampe, c'est l'une des rares régions du cerveau dans laquelle on peut fabriquer des neurones et il se pourrait que cette hypertrophie progressive de l'hippocampe de la conservation ou du renforcement des neurones qui sont fabriqués. Tout ça est hypothétique, mais en tout cas, ça reflète cette plasticité et bien sûr, ce développement des structures cérébrales est un élément important pour la résilience au processus des maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer étant en quelque sorte particulièrement agressive dans cette région de l'hippocampe, d'où les symptômes que l'on observe, il est intéressant de connaître les facteurs qui pourraient permettre, entre guillemets, de résister au processus de la maladie. C'est la raison pour laquelle on est très intéressé de savoir ce qui se passe dans le cerveau de personnes qui font appel de manière très importante à leur hippocampe, à tel point qu'ils sont capables d'en développer les capacités et le volume.
L'avantage pour les chercheurs dans le cas de cette étude, c'est qu'il y a moins de hasard. Les chauffeurs de taxi font partie d'un groupe professionnel qui a dû remplir les mêmes exigences pour accéder à leur métier.
Exactement, oui, c'est rare dans la recherche humaine puisqu'on a là un paradigme expérimental qui permet, sans le vouloir au départ, eh bien, d'avoir une population très homogène, qui a des caractéristiques très proches, ce qui permet de faire des études très très fines ensuite.
Mais en fait, avoir des hippocampes plus volumineux, est-ce que ça garantit finalement de ne pas avoir un jour la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée où il n'y a aucune garantie en fait?
Malheureusement, non, ça ne garantit rien du tout. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre pour les patients, puisque quand on les reçoit en consultation, on va leur prescrire, c'est le plus souvent le premier examen qu'on prescrit, une IRM cérébrale, et on va s'intéresser tout particulièrement, bien sûr, au volume du cortex cérébral en général et à celui de l'hippocampe en particulier. Et lorsque le radiologue a pointé le fait que les hippocampes étaient un peu atrophiques, les patients craignent eh bien, que le diagnostic soit posé. Mais il faut vraiment se dire que c'est quelque chose de statistique. On peut avoir un hippocampe relativement atrophique sans avoir la maladie et vice-versa, que la maladie soit d'ores et déjà installée, le processus de la maladie, j'entends, et que l'hippocampe ne soit pas encore détérioré. Maintenant, il n'y a probablement pas de lien entre gros hippocampe et le processus de la maladie, mais par contre, avoir un gros hippocampe, si tant est que ce gros hippocampe soit sous-tendu par des neurones en abondance, en bonne santé, qui forment des connexions, ce que l'on appelle les synapses, qui sont efficaces, eh bien probablement, ça pourrait permettre de mieux résister plus longtemps, plus durablement au processus de la maladie qui est connu pour entraîner une mort progressive des neurones et eh bien, des perturbations dans leur communication dans ces fameuses synapses. Donc, si l'état a priori est meilleur, eh bien, le processus de la maladie, même s'il commence à s'enclencher, déclenchera, fera apparaître plus tardivement peut-être les symptômes. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut former et c'est le sens de toute la recherche qui est menée actuellement sur la résilience cognitive avec les concepts de réserve cognitive, ceux qui nous disent que si on a bien utiliser son cerveau et qu'on a eu une bonne hygiène de vie qui a permis d'éviter que notre cerveau meure de diverses pathologies annexes ou consommation de toxiques, eh bien, si on a eu cette bonne hygiène de vie, notre cerveau est probablement en meilleure santé et il nous permettrait de mieux résister à une maladie neurodégénérative. C'est une hypothèse et c'est un pan de recherche très actif actuellement.
Oui, ce fameux pan de recherche sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs, en somme.
Exactement, en particulier là on parle de facteurs protecteurs.
Donc vous parlez de réserve cognitive, mais est-ce que voilà, cette réserve cognitive se situe dans la région hippocampique en particulier, ou dans tout le cerveau, ou bien est-ce qu'il faut voir un lien entre voilà, cette connaissance géographique spatiale des chauffeurs de taxi et la région hippocampique.
Alors oui. L'hippocampe, c'est une structure qui est très importante pour la mémoire qu'on appelle épisodique, celle des événements que l'on a vécu, mais elle est également très importante pour la mémoire spatiale. C'est d'ailleurs pour ça que les hippocampes sont très développés chez la plupart des animaux. Dans le cas de ces chauffeurs, c'est probablement d'ailleurs par ce biais-là que leurs hippocampes se développent. On sait hein, malheureusement que c'est le pendant, les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, eh bien, développent des difficultés dans l'orientation spatiale. Pour ce qui est de la réserve cognitive, ici, on pourrait dire que on observe un aspect très spécifique, on va dire peut-être une réserve cognitive ou un pan de réserve cognitive qui serait la réserve vis-à-vis de la capacité de localisation dans l'espace. Mais la réserve cognitive, c'est un concept beaucoup plus large qui fait beaucoup appel à ce qu'on appelle les fonctions exécutives, nos capacités de raisonnement, de planification, d'adaptation. Cette réserve cognitive, elle siège probablement de manière un peu diffuse dans le cerveau en faisant beaucoup appel aux régions qui sont les régions frontales et les régions de la profondeur du cerveau, mais probablement c'est vraiment quelque chose de diffus. ces patients-là, en quelques, ces personnes plutôt que ces patients, hein, les chauffeurs de taxi, on pourrait imaginer que s'ils devaient développer la maladie d'Alzheimer, eh bien, leur capacité d'orientation spatiale resterait en moyenne beaucoup mieux préservée, beaucoup plus longtemps que eh bien, les personnes qui n'étaient pas chauffeurs de taxi. C'est hypothétique, mais ça permet d'illustrer de manière très comment dire, circonscrite, eh bien, ce concept de réserve cognitive dans un domaine et sous-tendu par une structure donnée.
Pour vous, cette étude reste malgré tout intéressante. Voilà, c'est effectivement, même si elle se cantonne, se limite à, comment dire, à un aspect de la maladie.
Bien sûr, oui, la recherche fondamentale, puisqu'en quelque sorte c'est de la recherche fondamentale, est très importante parce que c'est sur elle qu'on fait ensuite reposer les hypothèses qui débouchent sur des découvertes très pratiques ou beaucoup plus proches de la maladie. Ici, on a l'avantage, comme on en a discuté ensemble sur ces quelques minutes, eh bien, d'être dans une situation qui, d'un point de vue scientifique, est très propre avec peu d'éléments perturbateurs ou polluants, ce qui va permettre de faire une analyse très en finesse et très en profondeur pour mieux comprendre eh bien, comment fonctionne cet hippocampe, comment fonctionne la plasticité dans cette région et, in fine, bien sûr, comment on pourra mettre en pratique ces connaissances pour identifier des moyens de mieux résister au processus des maladies neurodégénératives. En tout cas, pour ce que j'en comprends, c'est l'objectif des auteurs.
Très bien, eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Cogna, Emmanuel Cogna, d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions en podcast et sur le site internet et l'application de Radio Alzheimer. À bientôt.
L'écho du terrain.